Sa chute fait frissonner tout l'Occident. La nouvelle a un retentissement terrible à Rome, à Gênes, à Venise, et se répercute comme un grondement de tonnerre à travers la France et l'Allemagne. L'Europe s'aperçoit en frémissant que par sa sombre indifférence, une puissance destructrice a fait irruption chez elle, puissance qui paralysera ses forces pendant des siècles. Stefan Zweig, La prise de Byzance.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le 5 février 1451, un cavalier arrive chez le prince Mehmet. Il vient lui annoncer que son père, le sultan Mourad II, est mort depuis 2 jours. Le nouveau sultan a à peine 20 ans. C'est un érudit. Il lit les auteurs anciens, il est travailleur, il est pieux musulman. Il sait se montrer obstiné et il s'annonce déjà cruel. En effet, à l'annonce de la mort de son père, il fait exécuter son jeune frère par un soldat qui lui-même périra exécuté. On n'est jamais trop prudent dans l'Empire ottoman. C'est donc un tout jeune sultan qui se trouve à la tête d'une puissance qui, depuis le XIVe siècle, s'est appesantie sur l'Anatolie, sur les Balkans. Il y a une volonté chez lui de réduire ce qui reste de l'Empire byzantin. Et il n'en reste pas grand-chose de ce qui fut un des plus puissants empires de la Terre. En effet, du grand empire byzantin, qui a dominé l'Afrique du Nord, l'Égypte, le Moyen-Orient, les Balkans, l'Anatolie, il reste finalement, en ce milieu du XVe siècle, que la capitale, tête immense d'un empire atrophié, Constantinople, et il reste aussi quelques territoires grecs dans le Péloponnèse, dont le plus célèbre est la ville de Mystra. Sur ce résidu d'empire règne Constantin XI, paléologue. Il est basileus depuis 1448. Il ne se fait guère d'illusions sur la volonté de Mehmet II. Certes, le nouveau sultan assure les ambassadeurs byzantins qu'il veut conserver la paix, qu'il respectera les traités, mais Constantin XI et ses conseillers estiment que le nouvel empereur ottoman va essayer de débuter son règne par un geste extraordinaire, c'est-à-dire la prise de Constantinople. La ville est tout de même bien défendue. Elle est entourée de remparts, puisque depuis le IVe siècle, depuis Constantin et Théodose, la ville est entourée de murailles, et Justinien, au milieu du VIe siècle, a renforcé les défenses. D'ailleurs, en 719, les Arabes ont lourdement chuté en essayant de prendre la ville. Qui plus est, elle est, sur bien des parties de son pourtour, défendue par la mer. Certes, en 1204, les croisés latins avaient réussi à piller, moment d'ailleurs abominable dans l'histoire de la chrétienté, avaient donc réussi à piller la ville et avaient ramené des objets précieux dans toute la chrétienté latine. Constantin XI, évidemment, comprend que pour essayer de résister à ce qu'il voit venir, il lui faut des appuis. Il envoie des messagers, des ambassadeurs, à Rome, auprès du pape Nicolas V. De même, il avertit les puissances italiennes, la République de Venise, la République de Gênes, les souverains latins d'Occident, qu'il faut se préparer à venir soutenir la cité en cas d'attaque turque. Et d'ailleurs, l'Église de Rome envoie des légats à la fin de l'année 1451 à Constantinople. C'est le moment où, depuis déjà quelques années, depuis en particulier le Concile de Florence de 1439, on parle de réconcilier la chrétienté latine et la chrétienté orthodoxe. Et une messe de réconciliation qui d'ailleurs ne fait pas plaisir à tout le monde à Constantinople même, a lieu en décembre 1451. Ce qui était prévu par Constantin XI arrive à l'été 1452. Mehmed II annonce la guerre avec pour objectif la prise de Constantinople. Il se prépare à la guerre de manière extrêmement précise. Il réunit environ 120 000 hommes et il met le siège avec cette armée devant la ville le 5 avril 1453. Le sultan a bien compris que les murailles sont extrêmement solides. Aussi fait-il construire une artillerie lourde, capable de détruire les murailles de Constantinople. Il va faire d'ailleurs un tour de force puisque ces grands canons vont être construits à une centaine de kilomètres de Constantinople et amenés, tirés par des milliers de chevaux, de bœufs et d'hommes. Quant aux puissances chrétiennes, face à ce siège qui débute, que font-elles? À vrai dire, elles ne font pas grand-chose. Le 20 avril 1453, quatre navires génois parviennent à entrer dans ce bras de mer qu'est la Corne d'Or, sous les vivats des Byzantins assiégés. On pense que ce n'est que le prélude à une flotte de secours. À vrai dire, aucune flotte de secours ne viendra. Et débarquent de ces quatre navires génois quelques centaines de soldats qui vont participer à la défense de la ville, mais qui évidemment sont largement insuffisants. Mais la population garde tout de même confiance parce que la Corne d'Or, ce bras de mer donc, n'est pas atteignable par la flotte ottomane. Pourquoi ? Parce que à l'entrée de la Corne d'Or se trouvent de très lourdes chaînes que l'on peut abaisser ou relever selon que l'on veut faire rentrer ou empêcher d'entrer des navires. Donc a priori, la flotte turque ne peut pas pénétrer et attaquer depuis la Corne d'Or. Or là encore, la volonté de Mehmed II va s'avérer déterminante. Il réussit à faire transporter par voie de terre environ 70 navires qui, à la mi-mai 1453, se retrouvent dans la Corne d'Or. C'est-à-dire que les Byzantins, en se levant, voient des navires alors que les chaînes n'ont pas été abaissées. Il y a eu là un exploit technique important pour, par la terre, transporter des navires jusqu'à la Corne d'Or. Les espoirs diminuent à ce moment-là de sauver véritablement la ville. Le 28 mai est organisée à la basilique Sainte-Sophie une messe solennelle en présence de Constantin XI, d'une grande partie de la population et du patriarche. Pour la dernière fois, sous les voûtes de Sainte-Sophie, s'élève la liturgie byzantine. L'assaut débute au matin du 29 mai 1453. La résistance est farouche. Néanmoins, quelques centaines de soldats ottomans parviennent à franchir la première muraille, mais se trouvent tout de même coincés entre celle-ci et la seconde muraille qui défend la cité et qui n'a pas été détruite par l'artillerie ottomane. Mais, et c'est là où évidemment le détail de l'histoire devient important. En parcourant les murailles, ces soldats s'aperçoivent qu'il y a une porte qui n'a pas été fermée, la Kerkoporta. Est-ce que c'est un oubli tragique? Est-ce que c'est une trahison? Le doute est permis. mais ils peuvent s'infiltrer dans la ville à partir de cette poterne. À partir de ce moment-là, évidemment, les défenses sont tournées et les soldats turcs pénètrent véritablement dans la ville. Les combats dans les quartiers, devant les églises, dans les palais, durent une grande partie de la journée. L'empereur Constantin XI lui-même est mort dans les combats, dans des circonstances qui nous échappent, même si certains ont dit qu'il serait mort en cherchant à fuir. Non, le plus probable, d'après les chroniques, c'est qu'il est mort en combattant et que son corps, d'ailleurs, n'a pas été identifié. Au soir du 29 mai, le sultan Mehmed II entre à Constantinople. Il va aller à Sainte-Sophie. Et là où la liturgie byzantine s'était élevée la veille, des prières à Allah sont proclamées. La basilique va devenir très très vite une mosquée. Évidemment, ce moment est important. Important sans être déterminant, parce que la chute de la ville était prédite depuis déjà quelque temps. Mais tout de même, cet empire romain, dont la vie avait perduré à Byzance, se termine peut-être véritablement à ce moment-là, quand l'empire byzantin s'effondre définitivement.